Imaginez un créateur. Aujourd'hui, pour un seul projet, il doit jongler, je sais pas, avec 10 outils d'IA différents.
Ah oui, c'est le classique.
Un abo à Midjourney pour les images, un autre à Runway pour la vidéo, puis on passe sur Suno pour la musique, Eleven Labs pour la voix.
Sans parler des retouches derrière.
Exactement. Et c'est un vrai casse-tête logistique. On télécharge des fichiers, on les réupload, les formats collent pas toujours. Franchement, ça tue un peu la créativité, quoi.
C'est tout le paradoxe. Les outils sont hyper puissants, mais ils communiquent pas entre eux. Et si justement, on pouvait connecter tout ça ?
Comment ça ?
Ben, au sein d'une seule interface visuelle. Un endroit où le résultat d'un bloc, disons une image, alimenterait automatiquement le bloc suivant. Sans aucune friction.
Une sorte de plan de travail unifié ?
Voilà. Une sorte de plan d'architecte pour la création IA.
C'est exactement la promesse qu'on va explorer aujourd'hui. On va se plonger dans Flow Canvas, qui est une fonctionnalité de la plateforme yourrender.ai. Notre mission, en s'appuyant sur leur guide tutoriel, c'est de voir si cet outil peut vraiment unifier et simplifier tout ce processus. C'est un peu la quête de l'outil de création IA ultime.
C'est une belle promesse en tout cas.
Alors justement, rentrons dans le concret. Flow Canvas, qu'est-ce que c'est exactement ?
Alors, le guide le présente comme un éditeur de workflow visuel. Il faut s'imaginer une grande toile blanche, infinie.
Une toile de dessin.
C'est ça. Et dessus, on vient poser et connecter des blocs. Un peu comme des Lego. Sauf que chaque brique, c'est une action. Générer une image, créer une musique, animer une vidéo. Donc, on dessine son processus créatif, littéralement. Exactement. Et la vraie valeur ajoutée, au-delà de la simple commodité, c'est vraiment l'intégration. Le guide insiste beaucoup là-dessus.
C'est-à-dire ?
La sortie d'un nœud, par exemple une image qui vient d'être générée, devient automatiquement l'entrée du nœud suivant.
Ah oui, sans manipulation.
Voilà. Ce nœud suivant, ça pourrait être un nœud d'animation vidéo. C'est la fin du cycle infernal téléchargé, puis uploadé ailleurs.
Et la liste des outils qu'ils prétendent remplacer, ou en tout cas intégrer, est assez folle. On parle de Midjourney, DALL-E, Runway, Suno, Eleven Labs.
Et même des outils de post-production comme Topaz ou Magnifice AI. Avec un éditeur vidéo complet en plus. Honnêtement, ça paraît presque trop beau pour être vrai. La question c'est de, est-ce que ça résout le problème des 10 abonnements ou est-ce que ça regroupe juste le bazar au même endroit ? C'est toute la question. Pour y répondre, il faut regarder les briques de base, les fameux nœuds.
D'accord.
Le système repose sur 11 types de nœuds. On va pas tous les lister, mais le cœur du réacteur, c'est le nœud générateur. Il est vert citron, on peut pas le rater.
C'est là que l'IA travaille.
C'est ça. Et il se divise en 3 grandes catégories. D'abord, la génération d'images, du texte vers images classiques, etc. Ensuite, la génération de vidéos. Et enfin, l'audio. Sur la vidéo, tu as dit un truc qui a attiré mon attention, un système Elements du modèle Kling. Ça, c'est crucial. Est-ce que ça veut dire qu'on peut enfin avoir un personnage qui reste cohérent d'une scène à l'autre ?
C'est la promesse, oui.
Parce que c'est le cauchemar de tout le monde en ce moment, ça.
Absolument. En utilisant une image de référence du personnage, ce nœud vidéo est conçu pour maintenir la cohérence visuelle sur plusieurs clips. C'est une des clés pour passer de simples essais à une vraie narration.
D'accord. Et pour l'audio, c'est pareil, j'imagine.
Même principe. On peut générer une musique avec Suno ou ajouter des dialogues et des effets sonores sur une vidéo avec Eleven Labs, toujours dans le même flux. Plus stratégique. Le nœud diviseur ou splitter, par exemple. Au début, ça m'a semblé un peu gadget.
Ah, c'est un excellent exemple de la pensée workflow. Imagine, tu prépares une campagne de pub.
Ok.
Tu as une description de produit, mais tu veux la tester avec 6 slogans différents. Au lieu de faire 6 projets séparés, tu écris tes 6 slogans dans un seul bloc de texte.
Et le splitter ?
Le nœud diviseur va créer 6 sorties distinctes, une pour chaque slogan. Tu peux alors relier chaque sortie à un générateur d'images. Et hop, il te crée 6 publicités en parallèle.
Ah oui, d'accord. C'est un outil pour multiplier les variations à la volée, en fait.
C'est un gain d'efficacité colossal pour l'expérimentation créative.
Je vois. Et dans cette logique de chaîne de production, il y a la post-prod, qui est souvent l'étape un peu oubliée de ces outils.
C'est là qu'intervient le nœud de traitement. La post-production est directement intégrée. Le guide met en avant 2 fonctions.
Lesquelles ?
Un améliorateur de peau, qui utilise la technologie de FreePic AI pour de la retouche de portrait, et un upscaler qui s'appuie sur Magnifique AI pour augmenter la résolution des images.
Essentiel si on veut imprimer, par exemple.
Voilà, ou juste avoir de la très haute définition.
Mais le nœud qui, pour moi, a l'air de vraiment changer la donne, c'est le nœud d'assemblage vidéo. Là, on ne parle plus juste de générer des clips.
Non, là, on parle d'un véritable éditeur vidéo multipiste, directement sur la toile.
Carrément, oui, et c'est sans doute un des plus gros arguments de la plateforme. Le guide est très détaillé, on gère plusieurs pistes vidéo et audio, on superpose des images, on ajoute des titres animés, des transitions.
Et on exporte en quelle qualité ?
Jusqu'en 4K. La chaîne est complète, de l'idée au montage final, sans jamais quitter l'interface.
Donc ça pourrait venir chasser sur les terres d'un Adobe Premiere ou Final Cut Pro, mais pour un workflow purement IA, en fait.
C'est l'idée. L'avantage stratégie, c'est la fluidité. Si un clip ne te plaît pas, tu n'as pas à le réexporter d'un autre outil. Tu remontes au nœud générateur, tu as juste ton prompt, tu régénères.
Et le clip se met à jour automatiquement dans la timeline de montage.
Exactement. C'est ça, la fluidité maximale.
D'accord. Pour organiser tout ça, il y a des nœuds de type pense-bête, mais il y en a un qui a l'air beaucoup plus profond, le nœud d'instruction pour l'agent.
Ah oui.
Et dedans, il y a un outil au nom assez fascinant, le Set Layers Prompt Builder. Le constructeur de prompts en 7 couches. Rien que le nom, c'est une promesse.
C'est clair.
C'est un outil conçu pour guider les créateurs, même sans expertise en photo, vers des résultats de qualité professionnelle. C'est comme suivre une recette étape par étape pour construire le prompt parfait.
Alors, explique-moi, c'est quoi ces 7 couches ?
Ce qui est fascinant, c'est la structure. Prenons un exemple. On veut créer une photo pour une marque de montres de luxe.
D'accord.
La couche 1, c'est la composition. On veut un hero shot centré sur la montre ou une vue flat lay, à plat, avec d'autres accessoires.
Ok, le cadrage général. Ensuite, couche 2, type de plan et angle. Un très gros plan sur le cadran, une vue en plongée, on dit où est la caméra, logique. Puis les couches 3 à 6, c'est là qu'on ajoute la touche artistique. L'environnement, un atelier d'horloger, l'éclairage, cinématique, avec des ombres fortes, la caméra et l'objectif. On peut même demander un rendu type Canon R5 avec un objectif 85 mm pour avoir un beau flou d'arrière-plan. Et enfin, la science des couleurs. Le guide mentionne des styles de pellicule, comme Kodak Portra pour des tons chauds.
Ah oui, pour donner un style très spécifique.
Et la dernière couche, la 7e.
Elle est dédiée au style de la marque, pour s'assurer que toutes les images respectent une cohérence visuelle. C'est un outil très puissant qui transforme la rédaction de prompts, qui est souvent un art un peu obscur.
On peut même en un processus méthodique et contrôlé.
Voilà, c'est le genre d'outil que j'aurais rêvé d'avoir au début. J'ai passé des centaines d'heures à essayer de comprendre pourquoi mes images avaient l'air amateurs. C'est parce qu'il me manquait tout ce vocabulaire. Là, c'est comme avoir un directeur photo qui te souffle les réponses.
C'est très puissant, c'est vrai. Mais ça reste un peu abstrait si on ne voit pas comment ça s'assemble dans un vrai projet.
Absolument. Et c'est là que le guide devient très pédagogue. Il propose plusieurs patterns de workflow, des modèles de flux. Le premier, c'est le Hub Fan Out ou un vers N.
Un vers, plusieurs. Le principe est simple. Une idée centrale est distribuée vers plusieurs générateurs qui travaillent en parallèle. C'est le cas parfait pour la campagne de pub dont on parlait. Donc, on sort de l'idée de l'œuvre unique, de l'image parfaite qu'on essaie d'avoir pendant des heures. La compétence, ça devient de concevoir un système qui peut explorer des dizaines de variations quasi instantanément.
C'est un changement de mentalité complet, oui.
Pour un directeur artistique, par exemple.
C'est exactement ça. La créativité devient moins un flash de génie et plus de l'architecture de système créatif. Et à l'opposé de ce pattern, on a la chaîne séquentielle.
D'accord.
Là, chaque étape s'appuie sur la précédente. La sortie du premier nœud, l'image d'un personnage, sert d'entrée pour le deuxième nœud, qui va générer la scène suivante avec ce même personnage.
Parfait pour un storyboard ou une BD, j'imagine.
C'est l'idéal pour une narration visuelle cohérente.
Et le guide propose des tutos concrets basés là-dessus. Le premier, photographie de produits multiformats, utilise le pattern Hub Fan Out pour générer une photo en 4 formats pour les réseaux sociaux. Le guide estime le coût à 96 crédits. Ça ne me parle pas du tout, 96 crédits. C'est beaucoup. C'est cher, hein ?
C'est la question clé. Le crédit, c'est la monnaie de ces plateformes, mais sa valeur est souvent opaque. Pour donner un ordre d'idée, un crédit, c'est souvent quelques centimes d'euros.
Donc, 96 crédits, on parle de quelques euros.
Quelques euros, oui, pour générer une campagne visuelle complète et prête à l'emploi. C'est là qu'on mesure le gain de productivité.
D'accord, c'est beaucoup plus clair. Le deuxième tuto, Storyboard Vidéo, utilise la chaîne séquentielle. On crée une petite histoire en 4 scènes, personnages cohérents, musique. Le coût estimé passe à 428 crédits.
On voit que la vidéo et la cohérence ont un coût plus élevé.
Logique.
Oui. Et c'est une information transparente. C'est utile pour planifier un projet. Enfin, il mentionne un cas d'usage avancé, le brand book.
Créer une identité de marque complète.
Voilà. Logos, palette de couleurs, type de visuel, en un seul grand workflow. Là, on parle d'un coût estimé entre 500 et 700 crédits. Ça montre que l'outil est aussi pensé pour des projets d'envergure.
Ce qui nous amène à la question des moteurs. Toute cette belle interface, ça ne vaut rien sans de bons modèles d'IA derrière. Qu'est-ce que le guide dit là-dessus ?
Il est très clair. Flow Canvas n'est pas un système fermé. Il agrège une grande variété de modèles parmi les plus performants du marché. C'est un hub, en fait. C'est ça, un hub qui donne accès aux meilleurs de l'IA. Pour l'image, on trouve des noms comme Midjourney 7, Imagen 4 de Google. Pour la vidéo, des poids lourds comme Sora 2 Pro, Kling 2.6. Pour l'audio, Suno V5, Eleven Labs.
C'est impressionnant d'avoir accès à tout ça. Mais est-ce que ça ne pose pas une question sur la qualité et le contrôle finin ? Est-ce qu'on a la même finesse de réglage sur le Midjourney intégré ici que sur la plateforme native de Midjourney ?
C'est une excellente question.
Souvent, ces intégrations sont des versions un peu bridées, non ?
C'est un point de vigilance essentiel. Le guide n'entre pas dans ce niveau de détail, mais en général, il y a un arbitrage à faire. Les versions intégrées offrent une commodité et une fluidité de workflow inégalées. Mais peuvent parfois sacrifier certains paramètres très avancés. Le choix dépend du projet. Pour 95% des usages, l'intégration est suffisante et bien plus efficace. Pour le créateur qui cherche le contrôle absolu sur un paramètre très spécifique, la plateforme native restera peut-être la meilleure option pour cette tâche précise.
Ce qui nous amène au positionnement sur le marché. Le guide compare lui-même Flow Canvas à des concurrents comme Config UI ou Runway.
Oui, et les axes de différenciation sont clairs. Contrairement à Config UI, qui est extrêmement puissant,
mais qui demande une installation et a une courbe d'apprentissage très raide.
Exactement. Flow Canvas est entièrement en ligne et vise une plus grande accessibilité. Et par rapport à des plateformes comme Runway, qui sont très axées vidéo, l'avantage mis en avant, c'est cette intégration de toute la chaîne et surtout cet assembleur vidéo.
Le fait de pouvoir faire son montage là où on a généré ces éléments,
ça reste un avantage considérable, oui.
Donc pour résumer, si on devait synthétiser, Flow Canvas se présente comme une toile visuelle pour connecter des briques de création IA. L'objectif est de remplacer une dizaine d'outils, de rationaliser le processus
et de passer de la génération d'éléments isolés à la production de projets complets.
Montage inclus, dans une seule interface.
Le changement de paradigme est assez clair. On passe de la nécessité de maîtriser une multitude d'outils, chacun avec ses subtilités, à la nécessité de savoir concevoir des systèmes, des workflows créatifs.
C'est une nouvelle compétence.
C'est une nouvelle compétence, oui. Les patterns et les modèles fournis montrent une orientation vers une production créative plus structurée, plus facilement répétable et, à terme, scalable. Et en fait, ça soulève une question importante pour l'avenir.
Laquelle ?
Si le processus de création devient de plus en plus une question d'architecture de système IA visuel, plutôt qu'une maîtrise technique pure d'un seul médium, comme la photo ou le montage, est-ce que ça ne redéfinit pas en profondeur le rôle même du créateur ?
Tu veux dire que la compétence principale de demain
sera peut-être moins l'exécution artistique manuelle et plus la conception de ces flux de production complexes et multimodaux.